Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous amène au salon de l'endométriose pour ce nouveau reportage. Vous êtes sur les ondes de Radio Fil de l'eau, 106.6, à Lille Jourdain et 100.9, à Florence, ainsi que sur internet www.radiofildeleau.fr. Restez avec nous, on va vous raconter beaucoup de choses, on va vous sensibiliser beaucoup autour de l'endométriose, le cycle menstruel. Vous allez entendre plein de thérapeutes qui ont été présents lors de ces salons de l'endométriose pour la deuxième édition justement à Lille Jourdain. Première partie donc des entretiens avec les thérapeutes et en deuxième partie une conférence avec Flora Toron. Et pour la partie musicale, vous allez entendre deux artistes, chanteuses, Imani ainsi que Cindy Lauper, qui étaient atteintes de l'endométriose.
Bonjour, je te remercie pour cette lumière sur notre association. Donc en fait, aujourd'hui, on est au salon Endo et moi qui a été organisé par Lucille Cardine. C'est une personne que je connais, que j'ai rencontrée justement dans mon parcours de prise en charge. Et cette association parle des douleurs neuropathiques. Donc c'est une forme d'endométriose qui touche les nerfs. Mmh. Tu vas avoir des douleurs neuropathiques qui sont causées par plusieurs... il y a plusieurs causes à ces douleurs, mais c'est une forme d'endométriose qui est complexe, très handicapante. Et notre association, en fait, informe sur ces formes d'endométriose, propose des solutions, met en lumière aussi des personnes qui travaillent sur ces thèmes et des solutions pratico-pratiques. Donc on a un groupe Facebook où là tu vas pouvoir poser toutes ces questions sur le sujet. J'ai été opérée, j'ai ça comme douleur, ce kiné, est-ce que vous le recommandez? Je teste cette méthode, mon chirurgien me dit que ça, mais j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Il y a vraiment un échange, donc ça a démarré par ce groupe Facebook qui est vraiment un lieu d'accueil de la parole et de l'information, donc médicale, un lieu de bienveillance aussi, c'est quelque chose qui est là depuis le début, qui est une valeur importante pour moi. On est déjà toutes en difficulté, on n'a pas besoin en fait de se retrouver dans des problématiques comme ça. Donc c'est des valeurs qu'on affirme, et ensuite il y a eu un groupe Facebook, donc puis un compte Instagram, et c'est devenu une association officiellement l'année dernière.
Vous pouvez le dire juste quel est le site exactement?
Oui, alors c'est www.endometrioseneuro.com. Donc sur le site, tu vas retrouver notamment des articles sur la douleur, des articles sur le lien entre l'endométriose et les douleurs neuropathiques qui sont sourcés, donc tu peux retrouver les sources. On a fait des flyers, on a fait des affiches également. Mais du coup, c'est vrai qu'on essaie vraiment d'informer, de limiter aussi l'errance médicale, parce qu'une personne qui, par exemple, une dame est venue au stand tout à l'heure, avait des douleurs à la vessie, n'a jamais fait le lien avec son endométriose. Et les douleurs à la vessie, ça touche souvent les nerfs de la vessie, ça crée de l'incontinence. Et elle m'expliquait à quel point ces douleurs sont problématiques. Aujourd'hui, mon parcours qui a été vraiment très complexe autour de l'endométriose avec un handicap moteur à plus de 80% à l'époque, me permet, si tu veux, de pouvoir comprendre aussi les personnes et de créer des supports que moi, je n'ai pas eu pour pouvoir les accompagner et dire que
donc,
ça existe en fait.
C'est quelque chose de personnel en fait qui a
oui,
aussi...
Oui, ma démarche bien sûr, oui. Mon parcours personnel. Et du coup, j'ai eu la chance d'être opérée en fin de parcours en Suisse, qui m'a permis de remarcher. Mais c'est vrai que ça n'a pas été un cheminement facile. Et autour de ce cheminement, tu as eu beaucoup de violences médicales, beaucoup d'errances médicales. Et la manière en fait, dont on souhaitait être dans cette association, c'est justement lutter activement contre ça, donner aussi de l'espoir aux femmes, parce que ça, c'est des discours qui n'existent pas. Donner de la force aux personnes aussi en disant, moi, j'ai eu cette problématique. Aujourd'hui, je remarche. Si j'avais écouté les médecins, je n'en serais pas là et je serais peut-être dans un asile de fous parce qu'on m'a répété que j'étais stressée, que c'était dans ma tête. Par chance, comme c'est pas mon tempérament d'être stressée et que je savais que je marchais avant la chirurgie, que je ne marchais plus après, dans mon cas c'était une erreur médicale, je savais que je n'étais pas folle. Et nous, on a vraiment envie dans cet accompagnement de l'autre, aucunement psychologique, mais vraiment de sororité et d'amour de l'autre, de dire en fait non, t'es pas seule, on est tant, ça existe et on va tout faire pour que les lignes avancent dans ce sens-là, pour que les gens prennent conscience que l'endométriose neuropathique, ça existe. Voilà. Et que l'endométriose est une maladie globale inflammatoire qui peut causer aussi ce type de problématique.
Qui est reconnue quand même en France maintenant.
L'endométriose neuropathique, tu veux dire? Ça commence à venir, mais je t'avoue que quand on a créé le projet il y a 5 ans, déjà, les gens ils me disaient, mais pourquoi encore une autre association? On est la seule association à parler de ça. On est vraiment sur cette thématique. Donc, bien sûr qu'il faudrait, si on avait des budgets énormes et beaucoup de personnes, on pourrait faire énormément. Mais on fait ce qu'on peut. On est déjà très content d'être présent et d'apporter du support aujourd'hui à une communauté de plus de 7000 personnes et d'autres personnes qui ne nous suivent pas forcément, mais qui ont écho de ce qu'on fait. Et c'est cette information qui fera que quand toi, tu vas te faire opérer, tu sauras qu'il y a ces risques-là. Tu sauras que tu as des droits, parce qu'on parle aussi beaucoup de droits de la santé. Et tu pourras vraiment prendre des décisions de manière éclairée, en connaissance de ta maladie, parce que tu auras compris et tu n'auras pas cru la personne qui, elle, a eu une heure de cours dans sa vie de médecin sur l'endométriose et qu'elle te dira que c'est dans ta tête et que ça n'existe pas. Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous orientez, à part que vous rassemblez, informez, est-ce que vous orientez les personnes qui sont atteintes de l'endométriose ?
Oui, bien sûr. Alors, ça peut être en nous contactant sur les réseaux, sur Facebook, ça peut être des contacts par email. Par contre, nous, on ne solutionne pas à la place des gens. On donne toutes les clés pour que la personne trouve les informations. Le site est là aussi pour ça, parce que c'est vrai que sur Facebook, ce n'était pas un support qui nous permettait d'informer correctement. Et on est en train de récupérer toutes les informations qu'on avait sur Facebook pour les structurer sur le site, pour écrire des gros articles de support. Et qu'on a fait le site comme un hub, comme une bibliothèque, avec tout plein de supports qu'on est en train de consolider pour pouvoir les mettre sur le site. Voilà, donc tout ça, ça a un budget, ça a un coût. Donc il faut aussi à côté faire des demandes de subventions et que les personnes s'engagent aussi pour nous aider, pour qu'on puisse vraiment développer ce projet. Et derrière, on a aussi d'autres objectifs, notamment on est une association inclusive, donc par rapport aux personnes qui ont des besoins spécifiques, je parle des atypiques. Voilà, moi je suis neuro-A, ce qu'on appelle neuro-atypique, parce que j'ai de l'autisme. J'étais diagnostiquée il y a 4 ans justement autour de mon parcours et je vois à quel point ça a été difficile pour moi d'être bien prise en charge parce que je n'aime pas qu'on me touche, parce que j'ai un contact humains différents, des besoins différents et que je n'ai pas été écoutée, donc il y a encore des violences supplémentaires. Et du coup, l'objectif, j'espère d'ici 2 ans, c'est de créer un programme d'accompagnement pour les personnes qui ont ces besoins-là, d'être sûr qu'ils soient accompagnés dans une salle pour être sûr qu'il n'y ait pas d'agression. On sait aujourd'hui que plus de 80% des personnes handicapées ont pu être agressées sexuellement et on a aussi envie d'agir sur ça. Et par la suite, par rapport aux opérations de douleurs neuropathiques, aujourd'hui, on n'a pas de chiffres sur la réussite. Certains gynécologues spécialistes, peuvent se dire spécialistes de ça, alors qu'on sait que c'est pas vrai du tout. Et contrairement à d'autres pathologies mieux connues, on ne se rend pas compte de l'impact de la lésion des nerfs et que ça peut être handicapant concrètement et finir avec des handicaps moteurs lourds. Donc l'endométriose, c'est pas que des douleurs de règles, c'est pas que de l'infertilité. Les douleurs neuropathiques, c'est 40% des personnes qui le vivent de manière permanente ou de manière de temps en temps, à des degrés différents. C'est difficile. Il faut le considérer et il faut arrêter de nous dire que c'est dans nos têtes, parce que parfois ça peut être dans la jambe, dans le dos, dans la fesse, et ça existe en fait. Voilà. Il faut aussi rajouter un peu d'espoir, beaucoup de bienveillance et de la confiance en ces femmes, parce que c'est une maladie qui est difficile. Et si on arrive jusque-là à survivre, je peux vous dire qu'en tout cas, il y a énormément de personnes très courageuses.
Merci d'avoir partagé en fait cette parole, c'est très important. Je voulais juste savoir sur l'association, il y a des bénévoles, tu es pas seule, oui, j'imagine.
Alors du coup, on est une équipe d'à peu près une dizaine de personnes sur des axes particuliers. Mm-hmm. On recherche toujours des bénévoles, bien sûr. Mm-hmm. Mais on fait les choses différemment, j'ai en tout cas des associations, c'est-à-dire que nous, on considère ce que la personne a apporté pour l'intégrer au projet. Je pourrais pas te dire on a besoin de ça, ça, ça. Mm-hmm. C'est la personnalité de la personne qui va faire qu'elle va s'impliquer ou pas. Et moi, je vais être vraiment sur tous les pôles du coup, oui. Parce que je suis la présidente pour driver cette fabuleuse équipe d'humains exceptionnelle. Et ensuite, d'autres personnes vont écrire des articles, d'autres personnes vont s'occuper du groupe Facebook et on essaie de développer ça. Donc on a besoin de toutes les belles personnalités qui ont envie de s'investir, parce que même une heure par semaine, ça a de l'impact et ça peut aider. Donc nous, on est vraiment dans cet objectif de partage et on a une équipe très safe, ce que j'appelle très safe, okay. Très bienveillante.
Est-ce que vous envisagez de faire certains cercles de parole, enfin je les nomme comme ça, mais quelque chose en live pour voir un peu, rassembler les gens, mais pas que sur Internet.
Alors du coup, ça c'est pareil, parce que vu qu'on a des douleurs neuropathiques qui supposent des difficultés à l'assise, des difficultés à se déplacer et qu'on on est tout un peu dispersé à travers la France, ce n'est fait pas partie aujourd'hui de nos objectifs, parce que le site internet est tellement gros à gérer, les articles sont tellement lourds à écrire, on est tellement peu qu'on ne pourra pas le faire maintenant. Par contre, on aimerait bien au moins sur Toulouse et sur Paris, parce que c'est là où il y a vraiment les deux pôles principaux des bénévoles et de nos adhérents, ou de nos réseaux, potentiellement faire aussi des choses. Mais après, aujourd'hui, les associations comme Endo France, Endomine ou d'autres grosses associations, elles ont mis du temps à se construire. Ça ne s'est pas passé la première année. Voilà, nous, on a déjà quand même une communauté qui nous connaît, qui connaît notre investissement, notre sérieux et nos valeurs, parce que ça, c'est très important pour se connecter avec les autres et se reconnaître. Hein, voilà. Parce qu'il y a aussi plusieurs associations, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes objectifs. Je pense que les associations déjà présentes font un travail de terrain qui est très intéressant, là où nous, on essaie de faire un travail différent, je pense... d'accompagnement différent sur ce qui n'existe pas déjà pour être très complémentaire du coup.
En tout cas, il y a un espoir, comme tu le dis, et puis il y a d'autres associations qui sensibilisent en fait sur le sujet.
Bien sûr. Donc nous, on a, bien sûr, on aurait pu se diriger vers l'éducation des adolescentes, on aurait pu, sur l'éducation des parents, mais c'est vrai que l'endométriose neuropathique va plutôt toucher des personnes un peu plus âgées dans leur parcours, qui ont vraiment des difficultés de mobilité. Donc on s'est dit, rendons accessibles déjà toutes les techniques avant de... Parce que, bien sûr que le cercle de parole sont hyper utiles, mais dans le cadre de l'endométriose neuropathique, on est sur des personnes qui sont physiquement handicapées. Donc elles n'arriveront pas forcément à se déplacer, et il faudra... Il y a des étapes, en fait, voilà. Mais je pense que c'est... J'ai participé à des groupes de parole, puisque au bénéfice de l'association, et je sais que ça, c'est très aidant. Mais aujourd'hui, on a choisi, puisque ça existait déjà, de proposer de l'information concrète, très détaillée, hyper exhaustive, pour que la prise de pouvoir de sa maladie passe par l'information. C'est juste un choix.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors, je suis réflexologue plantaire, palmaire et crânio-facial. J'exerce sur l'île Jourdain 5 jours par mois. Tous les mardis, vous me trouverez sur l'île Jourdain. Et sinon, j'exerce également à Saint-Sauvy. Et je suis également praticienne en micromassage. Voilà, donc toujours sur Saint-Sauvy et l'île Jourdain.
Alors, aujourd'hui, tu es là au salon de l'endométriose en tant que réflexologue. Justement, je voulais connaître un peu cette approche. Comment on peut aider, on peut dire comme ça, accompagner les gens atteints de l'endométriose des femmes, surtout avec la réflexologie?
Alors, avec la réflexologie, on travaille sur des zones réflexes, sur des organes à distance. On fait comme si le corps était projeté sous la plante des pieds, sur la tranche des pieds, sur le dessus des pieds. Pareil pour les mains, pour le crâne, le visage. Il y a d'autres endroits aussi, mais bon, plutôt les pieds. Et on va stimuler par système. Donc une femme qui a besoin de vraiment lâcher au niveau musculaire, on va travailler sur le coude de pied, sur les orteils, on va vraiment cibler les zones réflexes en rapport avec sa demande. Et dans le cadre de l'endométriose, travailler surtout les zones réflexes du bassin et toute la zone lombaire qui souvent est très douloureuse dans ces cas-là.
Vous avez beaucoup de femmes qui viennent vous voir en fait pour des problèmes d'endométriose?
J'en ai quelques-unes. Donc j'aime bien coupler ces deux techniques de micromassage et de réflexologie. Parce que le principe des micromassages, c'est aussi une technique de toucher doux, sensible, et de rétablissement du mouvement. Donc je m'adresse aux fascias, c'est quelque chose de très doux, et quand on a mal, on n'a pas envie d'être touché. Et dans ces cas-là, même la réflexologie qui peut être parfois, surtout quand on a mal, il y a des points, des zones sensibles, des zones réflexes qui sont sensibles, ben on n'a pas envie de rajouter à la douleur. Et le micromassage permet de pallier à ça. Et après, on peut partir sur des séances de réflexologie en suivi pour avoir un suivi un peu plus long et un peu plus profond pour reformater le cerveau, on va dire, pour qu'il fonctionne différemment.
Merci beaucoup, Muriel. Salon de l'endométriose Ondo et moi, organisé par Lucille Leroy-Cardine. Je rencontre une sophrologue, Coralie Brotson, qui est à Lille-Jourdain justement. Et je voulais savoir, d'abord, justement, la première question, ça va être qu'est-ce que c'est la sophrologie. Donc on va découvrir aux auditeurs et auditrices qu'est-ce que c'est la sophrologie avec Coralie. Bonjour Coralie.
Bonjour. Alors, la sophrologie, du coup, c'est une technique en fait psychocorporelle. Du coup, ça se base en fait sur la respiration, des mouvements du corps et respiration. En fait, c'est vraiment une alliance des deux. Et aussi, c'est tout ce qui est avec la visualisation, des exercices de visualisation pour vraiment aller à la rencontre de soi-même. Voilà, là, en fait, la sophrologie, le but, ce n'est pas la relaxation. Comme beaucoup peuvent dire, l'idée, c'est qu'en fait, la relaxation va être un moyen d'accéder à la connaissance de son corps, de son esprit et de manière générale de soi-même.
Pourquoi on va voir un sophrologue ?
Alors chacun en fait arrive avec ses problématiques, donc ça dépend. Pour certaines personnes adultes, ça peut être de la gestion du stress, ça peut être aussi des problématiques de santé, comme là aujourd'hui par exemple l'endométriose, avec de la douleur qui peut être physique ou aussi mentale. Et après, ça peut être vraiment aussi des problématiques liées au stress ou même peut-être un mieux-être aussi, développer sa confiance. Voilà.
J'ai vu que tu as beaucoup de clients enfants et adolescents. C'était ton choix en fait de t'orienter plus vers les enfants et les adolescents, c'est ça?
Alors, ce n'était pas qu'un choix, c'est aussi, c'est venu à moi en fait. Voilà. Avec les enfants, il y a vraiment un feeling et une manière aussi de se connecter avec eux. J'ai une approche très ludique et en fait, je rentre facilement dans leur univers. Et en fait, ça fait que rapidement, en fait, ça vient se connecter. Et les enfants, je les aide aussi à découvrir qui ils sont. Et donc, moi, j'aime pas parler de gestion, c'est plutôt les apprendre à vivre leurs émotions. Voilà, donc du coup c'est un public qui rapidement vient à moi.
Tu as fait un atelier tout à l'heure, c'était plutôt avec des adultes ou des adolescents?
Oui, c'était avec des adultes en fait, du coup qui étaient des femmes atteintes d'endométriose. Donc là on était vraiment dans l'identification au niveau du corps, où étaient les douleurs et surtout la manière de les apaiser. En fait,
voilà. Tu peux nous dire un peu en quoi ça a consisté cet atelier parce qu'on n'a pas pu le voir et participer?
Alors en fait, on a fait d'abord des exercices de respiration. Déjà, ça permet un recentrage au niveau du corps. Et puis ensuite, c'était aussi une manière de libérer des tensions. Voilà, ça peut être des tensions qui peuvent être aussi bien des contrariétés que des douleurs. Donc là, c'est déjà faire un petit premier nettoyage avec les respirations qu'on allie avec des mouvements corporels, comme je le disais tout à l'heure. Et ensuite, en fait, on a fait vraiment une séance de sophrologie, c'est-à-dire où on était dans une posture de base en sophrologie, donc assis, les mains sur les cuisses, et une lecture du corps. Donc là, en fait, ils ont juste à suivre ma voix, à se laisser porter, et simplement, du coup, emmener du relâchement au niveau musculaire. Et ça permet aussi une détente au niveau mental.
Juste pour revenir à l'endométriose, est-ce que ça permet de soigner la sophrologie ou ça permet de travailler en fait sur la douleur? Est-ce qu'en une séance, on peut voir des différences?
Alors, soigner l'endométriose, non. Par contre, apaiser et en tout cas diminuer peut-être l'intensité des douleurs, oui. Après, en une séance, on peut avoir des bienfaits, mais l'idée de la sophrologie, c'est vraiment... en fait, c'est comme quand on veut avoir les méga-gaz abdos pour l'été, on va pas à la salle de soins une seule fois. Donc là, l'idée de la sophrologie, c'est pareil. C'est-à-dire que du coup, on va répéter les séances pour pouvoir justement avoir des bienfaits sur le long terme. Et puis après, moi, je fonctionne vraiment sur le principe où en fait, je donne des clés, des petits outils. Et en fait, l'idée, c'est que les personnes puissent vraiment après l'adapter dans leur quotidien. L'idée, c'est vraiment de passer par le corps. Du coup, d'avoir un relâchement au niveau du corps, d'avoir des ressentis dans le corps. Et en fait, c'est la première étape. C'est-à-dire que c'est l'étape pour après identifier notamment les émotions. Et derrière l'émotion, il y a un besoin. Donc si c'est agréable, le besoin, du coup, il va être satisfait. Mais si c'est désagréable, l'émotion, et dans les ressentis du corps, il faut aller voir quel besoin n'est pas comblé. Donc je ne dis pas que c'est la réparation totale à chaque fois, ça ne marche pas à chaque fois, parce que c'est une vraie connaissance de soi et c'est dans un aspect plus global de soi et aussi on a notre vie et notre environnement. Mais du coup, ça passe d'abord par le corps, selon moi.
Je suis avec Laure Camborieux, psychologue, psychothérapeute, qui est aussi présente au salon de l'endométriose. Et je voulais savoir en fait quel est le lien justement avec l'endométriose.
Alors moi je suis psychologue spécialisée dans l'accompagnement des couples, des personnes concernées par l'infertilité. Et donc c'est à ce titre que j'étais invitée par Lucille ici aujourd'hui pour parler justement de, alors en premier lieu de fertilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour préserver sa fertilité, préserver ses chances d'avoir un bébé, et aussi pour parler d'infertilité parce que ça ne suffit pas toujours de juste avoir une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à l'infertilité, au traitement de procréation médicalement assistée? Voilà. Et au cabinet en libéral, j'accompagne des couples qui sont face à cette problématique pour les aider à mieux vivre ces parcours avec moins de stress, leur apprendre à se reconnecter à leurs émotions, à se reconnecter à leur corps pour qu'ils puissent augmenter leurs chances de succès en PMA.
Et votre conférence, vous avez fait une conférence tout à l'heure, c'était autour de quoi? Vous pouvez nous raconter un peu?
Alors, ça me paraissait important de reprendre cette notion de fertilité en lien avec notre mode de vie, parce que, ben, en fait, depuis des années, la fertilité diminue en grande partie à cause de notre mode de vie, c'est-à-dire le manque d'activité physique, mais aussi et surtout peut-être, alors dans un premier temps, c'est ce que j'ai évoqué, l'âge de conception, qui fait que les chances de tomber enceinte pour une femme diminue avec l'âge, et ce qui est assez peu connu des femmes, mais aussi des hommes. Et puis aussi les autres facteurs qui vont affecter la fertilité, c'est notre mode de vie, donc les perturbateurs endocriniens, un mode de vie trop sédentaire, le surpoids. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles les personnes peuvent agir sans même être concernées par l'infertilité. Ça me semble important de le savoir. Parce qu'après, sinon, ça peut entraîner le couple dans des parcours de PMA qui sont complexes. Et donc, dans un deuxième temps, je reprenais ces parcours-là pour montrer quels étaient les impacts du stress, qui ne sont pas la cause de l'infertilité, mais qui sont la conséquence souvent, et qui vont diminuer les chances de grossesse. Et là, un accompagnement psychologique sur le stress, sur la gestion des émotions, va être un facteur aidant pour à la fois rendre ces parcours moins lourds, protéger la personne, protéger le couple, et faire en sorte que le couple va, avec un peu de chance, avoir son enfant dans des bonnes conditions pour l'accueillir et vivre une grossesse sereinement et vivre l'accueil de l'enfant de manière la plus sereine possible. Et finalement, ce que je développe dans ma pratique, c'est l'idée que on peut se saisir de cette crise de vie qui est l'infertilité comme un temps aussi où on va développer ses ressources personnelles, les ressources du couple, pour fonder une famille sereine.
Merci. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je vois que vous êtes basée à Toulouse sur votre écart.
Voilà. Moi, je suis à Toulouse, effectivement, un cabinet libéral, donc où j'accueille les couples et les personnes. Et puis, on peut aussi me retrouver en ligne, en visio, consultation. Ça, c'est pour les personnes qui sont un peu trop éloignées. Soit en individuel, en couple. Et puis, je reprends, là, le Covid étant passé maintenant, je reprends les accompagnements de groupe. Donc, des groupes de parole sont en train de se mettre en place. Et en juin, j'aurai un week-end yoga et méditation avec une professeure de yoga avec moi pour permettre aux personnes de se ressourcer, de reprendre un peu, de lâcher prise et de construire un petit kit pour traverser la PMA.
Merci Laure Camborieux.
Oui, alors donc moi je suis infirmière et sophrologue depuis 2021. Mon approche elle est centrée exclusivement sur la femme, enfin en grande partie. J'accompagne les femmes dès le désir d'enfant, donc pour tout ce qui va être parcours PMA, durant la grossesse, l'accouchement, le postpartum, et également pour toutes les difficultés féminines en fait que l'on peut rencontrer, comme l'endométriose par exemple, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui.
Donc voilà, on arrive sur le moment du lien avec l'endométriose. Qu'est-ce qui se passe avec la sophrologie? Quel est le lien justement?
Alors le lien entre l'endométriose et la sophrologie, ça va être de venir en fait d'abord pouvoir déposer toutes les émotions qui sont en lien en fait cette pathologie, les émotions du quotidien, que ce soit dans notre vie professionnelle comme intime au sein du couple et familiale. L'idée c'est de vraiment venir amener une connexion au corps qui va être différente. Alors moi j'utilise différents outils que propose la sophrologie, la respiration, le mouvement et tout ce qui va être visualisation. Donc tout l'accompagnement en fait en sophrologie avec l'endométriose, il va permettre aux femmes d'accueillir ces émotions, de pouvoir les gérer, les apprivoiser. Ça va être une façon pour elles de mieux se comprendre, de mieux comprendre leur fonctionnement et du coup d'avoir, de se réapproprier vraiment leur corps, de se réapproprier leur quotidien, leur vécu aussi. Alors moi je parlerai pas d'acceptation du corps parce que l'acceptation ça engendre peut-être parfois du renoncement. Là ça va être plutôt se le réapproprier en tant que tel, se refaire confiance, vraiment venir travailler sur des choses aidantes plus que de vivre son corps que simplement par la douleur, par la culpabilité, le fait de se sentir moins bien que les autres, parfois, que ce soit au niveau professionnel, comme dans l'intimité aussi, ce corps avec lequel on n'est pas très copain, quoi, qui nous plaît pas trop.
Cela aide, du coup, pour atténuer les douleurs, justement. Vous avez des femmes qui viennent vous voir pour ça. Donc, est-ce que vous avez, en fait, des retours des femmes qui ont passé par la sophrologie et qui... Voilà, parlez-nous.
Ça va être d'avoir un nouveau regard sur soi, en fait, de regagner de la confiance. Ça va être le premier marqueur. Ça va être, voilà, je me sens plus en confiance, je me sens plus fière, en fait, de voilà, comme on disait tout à l'heure, on parlait avec des personnes qui sont venues au salon et elles disaient, en fait, moi, la maladie m'a fait gagner ça. C'est-à-dire cette nouvelle approche de moi-même, elle m'a donné un sens, un combat différent, quelque chose que j'ai envie de transmettre. Voilà, et ça, c'est hyper doux, quoi, d'avoir des retours comme ça, parce que la confiance est essentielle. Quand on a la confiance, en fait, quand on se réapproprie cette confiance, ça marque un peu la fin du chemin et le début d'autre chose.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Donc moi je suis Nathalie Carudel, je suis coach, j'accompagne, alors coach bien-être, coach holistique, voilà, en tout cas j'accompagne principalement les femmes, mais pas que, parce que j'accueille aussi maintenant quelques hommes qui viennent toquer à ma porte et que j'accueille avec plaisir. J'aide les personnes en gros à vivre de façon épanouie dans tous les domaines de leur vie, donc ça fait très très large comme ça, parce qu'en fait je pense vraiment que tous les domaines de nos vies sont connectés et que ce soit pour certaines personnes comme aujourd'hui une entrée par la problématique de l'endométriose, finalement quand on commence à même apprendre par cette porte-là, finalement ça ouvre, ça connecte avec d'autres champs de notre vie. Et donc moi ma démarche c'est toujours d'accompagner un processus de transformation chez la personne. Donc c'est quelque chose de profond qui ne se fait pas en 3 jours et qui demande vraiment... de prendre conscience, et on est beaucoup dans l'observation. Moi, j'accompagne beaucoup la personne à s'observer dans ce qui est douloureux pour elle. Du coup, quelle stratégie elle a mis en place pour se protéger, ou pour se couper, ou pour essayer de moins souffrir. En général, ça associe des sensations de souffrance physique à des pensées souffrantes et qui limitent, qui enferment, et à des émotions qu'on juge négatives et dont on va essayer de le moins possible ressentir.
C'est une première conférence, enfin, je ne sais pas si tu as fait une conférence aujourd'hui ou tu vas faire plus tard.
Oui, aujourd'hui, je fais un atelier conférence à 18h.
D'accord.
Voilà.
Ce sera autour de quoi, tu peux nous dire un peu plus?
Ouais, ça sera déjà autour de ça, en fait, ce chemin de la résilience, okay. C'est-à-dire de pouvoir sortir de la spirale un peu enfermante dans laquelle on peut vivre quand on a une pathologie comme ça, comme le petit poisson qui quitte son bocal et qui va plonger dans le grand bassin, en accueillant déjà ce qui est douloureux, ce qui est difficile, pour s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres solutions.
Okay. Et donc c'est le premier salon, comme tu disais au début, la première interview. Est-ce que jusqu'à maintenant, tu as déjà accueilli en fait, dans ton cabinet, j'imagine que tu as un cabinet, des femmes atteintes de l'endométriose?
Alors dans mon cabinet, j'ai pas accompagné encore de femmes spécifiquement. Enfin, j'en ai une qui est Lucille, qui a fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. Donc je l'ai déjà accompagnée. Pour moi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est que ce soit cette porte-là ou une autre, finalement, j'accueille les personnes dans leur entièreté, donc je ne me sens pas d'être spécialiste, en fait, oui, d'une approche ou d'une autre, parce que mon approche est assez globale, et voilà, et je pense que voilà, tous les domaines se communiquent les uns avec les autres, donc que ce soit une limite qu'on a ou un problème dans sa vie relationnelle, dans l'amour pour soi, avec son enfant, avec son partenaire, ou dans une maladie. En fait, ça nous bloque, ça nous limite, et c'est toujours sortir de ces schémas-là.
Quelle est ton approche un peu plus concrètement? Est-ce que tu peux nous dévoiler quelque chose que tu mets en place?
Alors, j'ai des outils que j'utilise et que j'ai d'abord découvert pour moi, pour toutes mes transformations à moi. J'utilise la libération émotionnelle. Donc, il y a une technique qui s'appelle l'EFT, qui est une technique en fait de tapping, où on vient stimuler par les doigts, en tapotant des parties du corps, des méridiens, donc un peu des points d'acupuncture, pour en fait refaire circuler l'énergie en soi, c'est-à-dire retrouver de la vitalité, apporter plus de clarté quand on est dans le brouillard mental, par exemple, avoir un meilleur sommeil et apaiser les symptômes, les douleurs. C'est assez concret. Et j'ai une autre approche aussi émotionnelle, de pratique émotionnelle de libération qui est plus quantique, qui s'appelle le PIS, processus empathique d'abandon corporel et émotionnel, qui est aussi passionnante, où là on est moins actrice dans le sens où on ne va pas faire du tapping, mais plus on est dans une position de méditative. Et par ma voix, j'accompagne la personne à vraiment accueillir ce qui vient, s'ouvrir en fait à ce qui est là. Pour accepter que l'énergie de vie la traverse et vienne transformer et libérer des choses.
D'accord. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Tu es à l'île Jourdain ?
Oui, je suis à l'île Jourdain. Donc, je reçois les personnes une journée en cabinet à l'Ours Brun. D'accord. Et puis, avec d'autres thérapeutes, voilà. Et autrement, je reçois aussi en visio. J'accompagne des personnes qui sont plus loin. Hey, little sister, won't you come and sit down ? I feel like talking. Can you please spare me some time? Hey, little sister, I know I haven't been around. Let me say what's on my mind. I have to say what's on my mind. Hey, little sister, don't let them boy play with your soul. You deserve the whole world and maybe a little more. Sister, don't be scared to be yourself. It's the only thing you are, or just about the only thing that you have. When comes our times, know that you're not the only one. Your head, inside of your heels, inside of your head. Hey, little sister, I don't mean to bring you down. You're a lot of mistakes, but don't make it a habit. They say they're hard to break. Hey, little sister, just make sure you watch your step. It's a long way till the end, or just a long till the end. When comes hard times, know that you're not the only one. In pain, there's always more to life than just what stands inside your heels. What stands inside your head, inside of your heels, inside of your head. Little sister, don't you cry anymore. It's alright, it's alright. Nothing is forever lost. Hey, little sister, I know I'm not always around. So let me speak what's on my mind. When comes hard times, know that you're not the only one. Always more alive.
présenter rapidement. Je m'appelle Flora Christelle Tourant, donc je suis professeure de yoga au studio Move Garden à Mijourdain, qui est ouvert depuis 4 ans. On fait un petit peu tous les styles de yoga. Il y a du yoga dynamique, du yoga doux. Mon conjoint fait du qigong, il y a des arts martiaux aussi. Et j'ai deux créneaux de yoga de la femme, voilà, très centrés sur le bassin, justement, pour venir ramener de la conscience dans cette zone-là. Voilà, se toucher le ventre, respirer, faire des postures. Voilà, j'embrique un petit peu tout ce que j'ai aujourd'hui pour vraiment se reconnecter à cet espace. À côté de ça, je fais du coaching en santé et en nutrition intégrative, donc pour venir rééquilibrer certaines phases de vie, certaines sphères de vie, avec des petites actions au quotidien, en vous permettant de prendre conscience par vous-même de qu'est-ce qui est un petit peu déséquilibré et qu'est-ce que vous êtes capable de mettre en place justement pour venir rééquilibrer la balance par vous-même. Et j'accompagne autour du féminin sacré. Donc pour moi, l'atelier aujourd'hui, ça parle de féminin sacré aussi. C'est dans cette sphère-là. Je fais de temps en temps des ateliers de groupe. J'ai eu fait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, pour la journée de la femme, un atelier en entreprise, dans une entreprise de BTP justement, pour parler du cycle. Donc c'était super pour moi de partager ça avec des femmes qui sont dans une entreprise très masculine. C'est dommage, il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui étaient présents ce jour-là. Mais voilà, c'est une autre facette, mais pour moi tout ça c'est imbriqué parce que la femme fait vraiment partie de l'accompagnement, ça fait partie de mon histoire aussi parce que c'est parce que j'ai eu des règles très douloureuses dès le plus jeune âge. J'ai eu mes règles à 10 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs vers 13 ans je crois, et ça a été très compliqué très très jeune. En fait je me rappelle rentrer en rampant chez moi parce que j'avais pas pris le cachet au bon moment et que c'était trop tard quoi. Et j'ai attendu quand même jusqu'à 28 ans pour me dire bon, ce serait bien que tu fasses quelque chose parce que là c'est juste plus possible de passer autant de temps en souffrance. Et j'ai commencé à me former du coup d'abord avec le yoga et puis je me suis dit il y a des choses à aller chercher. Je commençais à ressentir des choses à l'intérieur de mon corps qu'on m'avait jamais, on m'en avait jamais parlé. J'étais jamais allée chercher ça. Et petit à petit, je me suis déviée un peu autour du cycle, la compréhension. Et c'est un petit peu ce que je vais vous partager du coup aujourd'hui. Donc, le but de cet atelier, c'est de connaître justement les différentes phases du cycle et approcher le cycle de vie différemment. Donc, vous apporter une vision différente du cycle de juste « j'ai mes règles » parce qu'il n'y a pas fécondation. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on sait en général par rapport au cycle. Donc, on va voir ça différemment. Et deuxièmement, prendre conscience justement de cette nature cyclique pour avoir plus de bienveillance envers soi-même, dans son quotidien justement. Là, pour revenir rapidement sur le cycle, pour celles qui ne savent pas trop, qui n'ont jamais trop eu d'éducation, on a 4 diagrammes du coup qui sont tous reliés, partent tous ici du premier jour des règles. Et ensuite, vous avez le cycle jusqu'au dernier jour des règles ici. Donc en bas ici on a quelques jours avec l'endomètre, donc tout ça c'est l'endomètre ici là, l'endomètre qui s'écoule et qui se réépaissit au fur et à mesure pendant le cycle. Les follicules ici qui grandissent dans les ovaires jusqu'à maturation de l'ovule et il y a ovulation du coup, puis ensuite le corps jaune qui se désagrège. Et au niveau des hormones du coup pendant les règles, tout est à peu près stable ici. Avant l'ovulation, pendant la première phase du cycle, on a l'œstrogène qui monte. Et au niveau de l'ovulation, il y a l'hormone lutéinisante et folliculostimulante qui vont donner un coup de gros boost pour permettre à l'ovule de sortir. Et ensuite, c'est la progestérone du coup qui prend le dessus. L'œstrogène, entre autres, parce qu'elles ont plein de choses à faire, ces hormones, l'œstrogène permet aux follicules de grandir. Et la progestérone permet à l'endomètre de s'épaissir petit à petit et aussi elle permet à la température du corps de s'élever après ovulation pour cocooner un éventuel fœtus. Okay ? Et donc je vais vous parler des différentes phases du cycle juste après. Ici vous voyez qu'il y en a 3. Il y a la phase folliculaire qui englobe les règles jusqu'à ovulation, la phase ovulatoire et la phase lutéale. Moi, je vais vous parler de 4 sphères. On va rajouter ici, comme si je faisais un trait hop, vertical ici, une phase menstruelle avec les menstruations, puis la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. Okay. Voilà, et du coup, je vais relier ces quatre phases du cycle à des saisons et à des saisons intérieures. La phase menstruelle ici, comme pendant l'hiver, il fait froid dehors, les jours sont courts, on a envie de rentrer, se cocooner sous son plaid et rester sous le lit. Pendant les règles, c'est un petit peu pareil. En général, on peut être un petit peu plus frileuse, on est fatigué, on n'a pas envie d'aller sociabiliser, on a juste envie de se mettre dans le lit et qu'on nous fiche la paix en fait. On a besoin d'être dans cette cave intérieure. Le printemps, du coup, la phase folliculaire juste après, on a les hormones qui remontent un petit peu petit à petit. Et comme pendant le printemps, il y a des bourgeons qui sortent, on a des idées, on a un petit peu plus d'énergie, on a envie d'aller vers l'extérieur. Et c'est un petit peu notre printemps intérieur, finalement. Pendant l'été, c'est pareil. Il fait super beau, on est en petite robe, on se sent super bien, on a confiance en soi, on a plus d'énergie pour soi déjà. On a plus d'énergie pour les autres et pour aider les autres. On a envie d'aller faire du lien social, on va boire l'apéro, on sort, les jours sont longs, on a vachement plus d'énergie en fait. Et pendant l'ovulation, c'est pareil, toutes les hormones sont en pic, c'est la phase d'expansion, on a beaucoup d'énergie, on se sent bien, on se sent belle en général, on a confiance en soi et après, on redescend. Donc la phase au niveau de l'automne, comme pendant l'automne, les arbres commencent à perdre leurs feuilles, les journées se raccourcissent, il fait un petit peu plus froid, et il y a plein de choses qui se passent dans le corps, et c'est pareil, c'est un petit peu notre automne intérieur, sachant que cette phase-là, en général, c'est la plus compliquée, c'est là où on a les symptômes prémenstruels. Est-ce que vous savez combien à peu près de symptômes prémenstruels existent? Non? 150. Juste comme ça. Donc si vous en avez 2-3, c'est cool. C'est pas beaucoup. Voilà, donc l'automne intérieur, en général, c'est là où on a les symptômes prémenstruels. C'est là où on se sent, on peut se sentir fatigué. Il peut y avoir plein de styles de symptômes. Mais ça peut être des douleurs en amont, ça peut être des migraines, ça peut être de la fatigue, ça peut être l'humeur complètement dans les chaussettes, hein, les idées noires, des ballonnements. Bon voilà, ça va. Il y en a 150, je ne vais pas vous les lister, je ne les connais même pas tous, je pense. Il y en a beaucoup, en tout cas. Donc, ce que je propose, moi, dans mes accompagnements, justement, c'est vous donner des outils pour venir traquer ce cycle-là, pour comprendre votre propre système et votre propre manière de fonctionner, en fait. Si ce n'est pas équilibré, ça vous permet de voir, de comprendre ce qui se passe, hein, de pouvoir anticiper, éventuellement, après plusieurs mois, de visu, de dire ah ben ouais, tous les X du mois j'ai l'humeur dans les chaussettes, tous les mois au même jour c'est la même chose, et de savoir ça, ben déjà ça fait du bien parce qu'on se dit ah mais au moins je sais quel jour c'est, ça permet d'anticiper et je fais en fonction de ce qui se passe, et petit à petit ça donne des outils, ça donne ça permet de mettre en place certaines choses pour venir rééquilibrer la balance et comprendre justement qu'est-ce qui s'est passé pendant le cycle qui fait que il se passe ça. En fonction des saisons, en fonction de l'alimentation, en fonction de si vous avez bougé, en fonction de si vous vous sentez bien dans votre situation familiale, financière, le boulot. Il y a plein de choses qui viennent toucher le cycle finalement. Toutes les sphères de vie impactent notre santé. Et notre santé, c'est notre cycle. Si notre cycle il est un petit peu en branle, ça reflète quelque chose à l'intérieur. Quoi après, c'est voilà, le travail de chacune d'aller ou pas, voir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, chaque saison est reliée, chaque saison intérieure est reliée aussi à la nature. C'est les mêmes saisons finalement, même si on peut être en décalé. Le cycle de vie et de mort est présent du coup en soi, et ça c'est important, j'insiste dessus, parce que on est dans une société où c'est compliqué de parler de mort justement, et là c'est vraiment un réel potentiel d'utiliser ce cycle pour permettre de faire des deuils en fait de la vie du quotidien, des petits projets jusqu'à des gros deuils éventuellement. Chaque mois ça permet de ok, qu'est-ce que je laisse cette fois-ci, je fais un petit peu de place.
Mais du coup, il se passe quoi en fait quand tu prends des traitements qui font que tu n'as pas de cycle?
Alors, ça dépend le traitement, mais ça met en pause.
Eh oui, justement. Des glandes endocrines. Ça met en pause très longtemps en fait.
Là, c'est le travail pareil en fait. On peut faire le même travail à ce niveau-là, mais ça va être encore plus subtil. Parce que même si tu n'as pas à proprement dit tes règles, tu peux être toujours en contact avec ces changements finalement intérieurs. Pareil pour les femmes qui ont eu une hystérectomie, l'énergie de l'utérus, de la matrice, elle reste dans le corps. L'énergie de la matrice, elle est présente dans le corps. Il y a quelque chose qui reste dans le corps et tu peux toujours avoir éventuellement des mini-fluctuations, mais ça, voilà, c'est à chacune d'aller chercher, se connecter avec les outils justement et ressentir. Et ça, c'est tout le travail que je fais en yoga. Se reconnecter au corps et se reconnecter au sens, se ressentir, ralentir, se nourrir et ralentir vraiment. Et en plus de ça, on a les quatre saisons chaque mois, mais aussi dans votre phase de vie, vous pouvez être dans une saison. Moi par exemple, je suis en pleine extension au niveau professionnel, je suis dans mon été. Je mets des choses en place, je fais à droite, à gauche, il y a plein de trucs qui se passent. Je suis en été pendant X mois, X années, mais tous les mois j'ai quand même les quatre saisons qui défilent. Ok ? Et ça peut rester plus ou moins longtemps. Période de deuil, on reste X temps, on est dans notre hiver, on a besoin de. Ok ? Besoin de temps, besoin d'attention, besoin de cocooning. Et puis à un moment donné, hop, je repasse sur une autre saison. Et tout ça, venir comprendre un peu comment chacune fonctionne, comment, quel cycle impacte le plus ma vie aujourd'hui finalement. Ben, ça permet de mieux se comprendre, ça permet d'adapter un petit peu ce qu'on fait au quotidien. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller courir 5 km pour me défouler? Ou est-ce qu'en fait j'ai juste besoin qu'on me prenne dans les bras et souffler un petit peu parce que j'ai besoin d'attention? Ça permet plus de bienveillance en fait. Voilà. Donc même avec un cycle qui n'est pas forcément présent, il peut quand même y avoir des micros en fait, changements à l'intérieur. Il y a toujours les phases de vie, les phases de la nature, les saisons pardon, de la nature, auxquelles on peut éventuellement se connecter et voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais ça demande un travail de reconnexion profonde, vraiment, et subtil.
Mais tu vois, si tout ça s'était expliqué en fait, dans les cours d'éducation au collège, lycée, etc., en fait, nos patrons d'aujourd'hui verraient les choses différemment.
Oui, oui. Ah, mais j'ai une petite idée là d'aller faire des ateliers dans les entreprises. Hein, parce que je pense que d'ici qu'on change la donne, c'est pas évident. Et c'est d'abord à nous, en tant que femmes, de se réapproprier notre corps et de se réapproprier un peu tout ça. Parce que ça prend du temps. Hein. Moi, ça fait 4 ans ou 5 ans que j'y suis dedans. Et j'en apprends encore tous les jours sur mon fonctionnement. Et moi, je me dis, ah non, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu venir. Donc, et c'est changeant parce qu'on grandit, on évolue, il y a des enfants, après il y a plein de choses, donc c'est sans fin. Mais c'est clair que ça changerait la donne pour soi, pour nous en tant que femmes, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, pour adapter certaines choses et avoir beaucoup plus de compassion en fait dans le quotidien. Surtout dans les phases de down, toi qui es coach, on a l'acceptation de faire quand ça va pas. Ouais. C'est très très dur. Donc ça permet voilà, de relativiser un petit peu aussi, de se dire bon mais c'est bon, aujourd'hui je suis déprimée, c'est pas grave en fait. Et s'il y a les conjoints, la conjointe à côté, juste laisse-moi tranquille, laisse-moi dans ma cave.
Et de s'y installer. En français, oui, d'accepter de s'y installer dans ces phases qui sont pas toujours confortables, ou des fois on n'a pas trop envie d'y aller vraiment parce que ça nous déstabilise, on n'est pas habitué justement, mais de se dire ok, puisque là on sait que c'est ok. Petit à petit, on s'autorise à vivre avec un peu plus de « ok, je suis un peu déprimée ». En fait, il y a presque un confort que je peux trouver là-dedans. Ça, tu vois, ça change. Et pour l'entourage, ça change aussi parce que du coup, quand on est un peu plus avec soi-même d'accord, ben, il y a peut-être plus l'espace pour que le conjoint ou les enfants nous laissent aussi un peu cet espace parce qu'on s'autorise déjà à le dire et à le ressentir.
Ouais. Ouais, parce qu'on n'est plus dans cette dualité avec soi-même, à cette culpabilité,
à se tendre, à se dire, je suis fatiguée, mais j'y vais quand même. C'est ça.
Et si on s'auto-culpabilise, il y a de grandes chances pour que dans la famille, ensuite, au niveau du conjoint et des enfants, mais qu'il y ait la même chose en fait, qu'il soit répercuté, parce que on n'a pas ouvert ce dialogue-là. On n'a pas ouvert ce dialogue de « Ok, on a le droit de ne pas être bien, on a le droit d'être vulnérable, on a le droit de pleurer, de remettre
comme notre partenaire, comme nos enfants ont le droit, en fait. Mmh. Oui. C'est aussi comment on autorise l'autre à l'aide, puisqu'on...
Mais c'est tout un travail de le faire pour soi-même, surtout quand on a vraiment des phases qui sont compliquées, qui peuvent durer sur plusieurs mois ou une année ou deux. Mais ça permet vraiment, pour l'avoir vécu, hein, traverser une ou même deux, je pense, dépressions, mais j'étais déjà très jeune. Mais la dernière, en fait, j'avais la foi, je savais en fait que ça allait passer parce que je savais que tout est cyclique. Juste me dire ça, me dire tout est cyclique en fait. Peut-être que je resterai déprimée 10 ans, ça va être très très long, mais j'en sortirai. Bon, heureusement, ça a duré beaucoup moins longtemps. Et petit à petit, on reprend le dessus en fait. C'est ok, comment je fais pour me nourrir? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que je peux aller faire? La salsa, danser, voir les amis, la nature, bref, chacune a besoin, sait de ce dont elle a besoin. Et voilà, là, on ramène un petit peu de la conscience sur notre état cyclique, naturel, que la société essaye de supprimer, ou voilà, on met un petit peu le voile là-dessus, parce qu'il faut qu'on soit bien, il faut être productif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais tous les mois, en fait, on a ces phases où, ben, pendant les règles, par exemple, non, on n'est pas dans la productivité, on est dans la réceptivité.
Merci Anna d'être là. Écoute, je vais bien avec ce beau soleil inattendu en plus. Donc c'est une très très belle journée. Et on a grand plaisir à être là pour partager du coup donc sur l'endométriose avec tous les thérapeutes qui étaient conviés à cette belle journée.
Justement, ouais, je suis avec Lucille Leroy, la créatrice de ce salon Ondo et moi. Comment ça se passe pour toi cette journée ?
Eh bien écoute, ça se passe bien. Après l'énergie que j'ai mis là pendant le dernier trimestre, c'est vraiment l'aboutissement. Donc c'est une journée importante d'échange. Je vois en tout cas que tout le monde est ravi, donc ça me fait plaisir. C'était vraiment l'idée.
J'avais une question sur le choix en fait. Pourquoi tu as choisi ? Comment tu as choisi en fait ces gens, ces partenaires qui sont là aujourd'hui ?
Eh bien, pour la plupart, je les connaissais déjà, voire même je les ai consultés moi-même. Après, ça a été des rencontres au fur et à mesure. Effectivement, il y a eu des annonces en fait, que j'ai passées en amont du salon pour que ça résonne chez les personnes. Et surtout, l'idée, c'était de les sensibiliser à l'endométriose et qu'ils puissent, dans leur pratique au quotidien par la suite, y être sensibles et pouvoir éventuellement orienter les personnes eux-mêmes.
Oui, donc tous les thérapeutes là qui sont aujourd'hui peuvent être en lien et sont en lien en fait avec l'endométriose.
À mon sens, c'est vraiment le point très important, c'est de sensibiliser un maximum de personnes qui interagissent avec d'autres, peu importe qui c'est, parce que il faut vraiment gagner du temps sur ces fameuses 8 années avant de pouvoir poser un diagnostic. Et vraiment l'idée c'est ça, c'est de pouvoir communiquer au maximum autour de la maladie, parce que ça isole beaucoup trop de femmes et que c'est quand même 10 à 20% d'entre elles qui sont touchées aujourd'hui chez les femmes en âge de procréer. Donc vraiment oui, il faut en parler, et plus on en parle, plus ça permettra de gagner du temps sur le diagnostic. J'attends vraiment aujourd'hui qu'il y ait des retombées aussi suite à ce salon, de pouvoir avoir des contacts de prix aussi avec des personnes à échelle locale. Je l'ai dit sur l'émission justement Radio Fil de l'eau, que les personnes qui s'investissent dans leur quotidien auprès de l'humain, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine social, en politique, à échelle locale sur l'île Jourdain, puissent vraiment me contacter pour qu'on puisse ensemble créer des choses qui, pourquoi pas, puissent partir d'ici. Je crois beaucoup en l'humain, en l'idée de se relier et de pouvoir mener à de grandes choses qui soient duplicables ailleurs aussi. Je ne demande pas grand-chose finalement, je demande juste une voix qu'on puisse éventuellement mettre à disposition à un local avec une permanence mensuelle. Je sème la graine comme ça, l'idée de pouvoir sensibiliser un maximum de personnes et même des personnes, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, etc. Parce qu'il y a un cruel manque d'informations, de formation, puisque ceux qui ont été formés par le passé n'ont pas forcément toutes les ficelles. Et donc aujourd'hui, il y a une grande remise à niveau qui est à faire, qui est importante, primordiale. Et d'ailleurs, j'échange souvent avec le professeur Leguevac de l'hôpital Pasteur qui soutient l'événement, qui malheureusement est à Paris puisque c'est un gros mois aussi pour lui. Mais voilà, on travaille vraiment là-dessus, sur le fait de démocratiser tout ça et sur cette idée de pluridisciplinarité et de médecine intégrative et d'y amener des pratiques qui sont holistiques et qui englobent vraiment la dimension aussi émotionnelle que la dimension physique qui est tout aussi importante.
Merci beaucoup et à l'année prochaine.
Merci Anna.
Pour la troisième édition.
C'est ça, merci beaucoup.
Merci.